au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Yankel Fijalkov sur Judaïque FM.
Bonsoir, bienvenue à l'émission Livre au Café des Psaumes, ici Yankel Fijalkov. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Michel Juffé. Michel Juffé est philosophe, spécialiste de problèmes d'éducation et de travail, de questions d'éthique et de politique, ainsi que d'écologie. Il a été professeur dans de nombreux établissements universitaires. Il a publié des ouvrages, dont un colloque à Cerisy sur l'expérience de la perte, ainsi que des ouvrages sur Freud et Spinoza. Il vient nous présenter aujourd'hui son dernier ouvrage, Éclat d'un monde disparu, une famille juive entre Vienne et la Galicie, aux éditions de l'Élan. Ouvrage qui a des rapports avec ce qui précède, comme nous allons le voir. Alors Michel Juffé, merci de venir nous voir. Je voudrais vous demander d'abord pourquoi ce terme d'éclat dans le titre de l'ouvrage.
Alors déjà, merci pour votre accueil. C'est la deuxième fois que je viens ici. Je suis ému, hein, faut croire. Bon, non, j'ai attrapé mal à la gorge en venant à Paris. Alors, éclat, ben, le sens habituel, les éclats, c'est quand on taille une pierre, il y a des éclats qui en sautent. Et c'est ce qui reste, les éclats, finalement. Ce n'est pas ce qu'on utilise. Bon, donc, c'est une espèce de déchet, finalement. Bon. Et puis, l'éclat, c'est aussi l'éclat du soleil, ce qui est éclatant, ce qui rayonne, etc. Bon. Et je pensais aux deux à la fois, quoi. Alors j'hésitais, je pensais d'abord à fragments, je pensais à bribes, etc., etc. Mais ça n'avait pas d'éclat, justement. Bon. Donc j'ai fait ce titre à cause de ça, pour le jeu de mots qu'on peut faire sur les deux. Et cette ambivalence, d'ailleurs, justement, de ce qui pour moi a beaucoup de valeur et qui en même temps a été, le moins qu'on puisse dire, entièrement dévalorisé. Puis par la disparition, justement.
D'accord. Alors, votre ouvrage comporte beaucoup d'éléments sur l'absence. Et l'absence, vous en avez déjà traité à propos de la perte.
Oui, notamment. Oui.
Comment, finalement, ce livre arrive après des ouvrages collectifs que vous avez travaillé en collectif sur la perte, en lien avec des penseurs comme Freud et Spinoza? Comment vous situez cet ouvrage dans le cours de vos autres ouvrages et de vos autres recherches?
L'absence n'est pas la perte. L'absence, c'est ce qu'on n'a jamais eu. Mmh. Ce qui peut être une perte aussi, considérant ce qui aurait pu être. Bon. Mais pour moi, la perte, au sens où je l'ai travaillé dans ce livre collectif qui était un colloque de Cerisy, c'est vraiment ce qu'on a perdu, et les pertes irréparables. Alors, ceci dit, bon, dans ce livre-là, on a à la fois effectivement l'absence, puisque ces parents que j'imagine à travers les yeux de contemporains qui sont des écrivains ou des témoins ou des historiens, peu importe. Bon, par exemple, enfin, je dis un peu comme ça bien, François Fechteux, qui a écrit sur la fin de la monarchie austro-hongroise, était un juif, alors est-ce qu'il était hongrois lui-même? Je crois, oui, bon. Qui était aussi un ami mon père, et pourtant c'est quelqu'un que je n'ai pas connu. Donc vous voyez là aussi, perte, absence, présence possible. Et ce Fechteux, je finis par le connaître peut-être 40 ans après le moment où j'aurais pu le rencontrer, et en même temps je le connais. Donc il y a tout un jeu autour d'écrits qui, eux, sont restés, y compris de ma propre famille, il y en a très très peu, bon, qui à la fois manifestent cette perte irrémédiable et à la fois font ressurgir l'absent et le présentifient. Donc, il y a tout ça à la fois, quoi, que j'ai essayé de composer. Alors le rapport à Freud et Spinoza, ben, c'est que Freud est tout le temps dans le travail de deuil, de perte, etc., et de reconstitution, etc., mais beaucoup de mal. Alors que Spinoza, par je ne sais quel, je ne peux pas appeler ça un miracle, mais quelque chose de stupéfiant, a réussi, apparemment en tout cas, à surmonter ce qui était deuil et perte, etc., parce qu'il dit, moi je me suis détaché, c'est déjà, il avait 25 ans, même pas, quand il a écrit le traité de la réforme de l'entendement, oui, ou de la réforme de l'esprit, enfin peu importe. Bon. Et il dit, je m'étais attaché à des choses fugitives, historiques, mais ça peut être aussi sa propre histoire, sa famille. Il a quand même perdu frère et sœur, son père assez jeune, sa mère, bon, même sa belle-mère, etc. Bon, il s'est écarté de la communauté juive, etc. Donc c'est beaucoup de pertes, mais pour lui, compensé par le fait qu'il accédait à ce qu'on ne peut pas perdre, à savoir l'ensemble de la nature. Alors là, moi, j'avoue, mon admiration, et mon incapacité. Je veux dire, je ne suis pas du tout là. Pourtant, ça fait 50 ans que j'ai Spinoza. J'ai beau le révérer, mais moi, j'arrive pas. Je veux dire, j'arrive pas à sortir de ce jeu de pertes réparables ou pas réparables. Bon. Alors, lui prétend l'avoir dépassé, je ne sais pas. Alors que Freud vit là-dedans complètement. Alors, je dirais, Freud est un proche par l'histoire. En plus, bon, anecdote, mes grands-parents, à Vienne, vivaient au 66 Lichtensteinstrasse, qui est à angle droit, avec la Bergasse, est à 500 mètres. Je l'ai mesuré en marchant.
Il y avait le cabinet de Freud.
Bon. Hein
oui, mais... il y avait le cabinet de Freud.
Oui, c'est ça. Mais non, le cabinet, la maison. Il possédait trois étages, hein, trois niveaux. Bon. Et je me dis, il devait se rencontrer de temps en temps à l'épicerie du coin où Anna Freud devait rencontrer ma grand-mère. Enfin, c'est supposé, mais pourquoi pas. Je n'ai pas parlé de tout ça, hein, parce que je ne voulais pas forcer le trait sur la relation possible à psychanalyse. Bon. Parce qu'autant que je sache, ça n'avait pas. Bon. Mais donc, il y a cet univers que je reconstitue, ni comme un romancier, ni comme un historien, dans la mesure où je ne suis pas vraiment historien et je ne prends pas toutes les précautions pour un historien, ni comme un romancier, parce que je ne m'appuie que sur des documents attestables, si je peux dire, hein, même quand c'est des romans, mais je les prends comme documents à ce moment-là. Bon. Et j'avais autre chose en tête que je viens d'oublier.
Voilà, voilà. Alors, c'est un ouvrage, effectivement, qui est ni tout à fait un roman, ni tout à fait un récit historique, et qui se situe un petit peu dans l'entre-deux de la mémoire, et qui traite Vienne, du monde viennois, oui. Du monde de la ville de Vienne, dans la mosaïque austro-hongroise, et puis une autre partie de la famille, si j'ai bien compris, de la Galicie polonaise, et sur lequel, effectivement, vous recherchez chaque fois des mémoires de votre famille, sachant que vous avez peu de matériaux.
Presque rien.
Presque rien.
Et du coup, il y a d'autres témoignages sur la Galicie que j'ai utilisés d'ailleurs.
Hein. Oui.
Par exemple, Albert Londres a passé quelques jours, je ne sais pas combien de temps.
Oui, le juif Ferrand est arrivé.
C'est ça. À Lviv, ce qu'il en décrit, mais c'est abominable. Il y a des gens qui m'ont dit, tu devrais enlever ça, c'est trop dur. Mais j'ai dit non, il décrit une réalité. Quoi. Bon. Mm-hmm. Donc, évidemment, ce n'est pas celle de ma famille. Alors, si je rectifie un peu ce que vous avez dit. Ce n'est pas une partie de la famille qui était à Vienne et une partie en Galicie. Ils allaient de Vienne en Galicie et retour.
Oui,
et aussi,
leur monde.
Et aussi on dit Tchéquie, mais enfin, bon, en Bohème-Moravie, disons, à l'époque. Bon. Et ça, c'est plutôt la famille de mon grand-père paternel, un arrière-grand-père, père de ma grand-mère paternelle. De l'autre côté de la famille, je ne sais rien, à part que mon grand-père, lui, est né en Galicie, effectivement. Bon. Et après, il est allé à Vienne, il se retourne en Galicie. Mais... j'ai pas le détail de leur déplacement.
Oui, voilà, vous avez très peu de matériaux.
Très peu, très très peu.
Qu'est-ce que vous avez comme matériaux ?
Quelques lettres, un télégramme.
Un
mandat, un télégramme sur lequel j'ai beaucoup, pas brodé je dirais, mais j'ai beaucoup travaillé, parce que je lis pas l'allemand en plus, alors ça crée un handicap, mais j'ai un ami qui le lit très bien tout ça, il m'a dit, mais ça veut dire ça, j'avais plus ou moins deviné. Donc. Et c'est un télégramme que ma mère, qui est à Bohumín, qui est une ville à la frontière tchèque, aujourd'hui, je finis par plus savoir qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a hier, de ce point de vue-là, ce qui n'est pas bien grave. Bon. Et apparemment, mon grand-père, non, mon arrière-grand-père plutôt, était à... Mais vous voyez, je finis par confondre. Je ne cesse pas de confondre. Je pense qu'il était à Bohumín, que ma grand-mère était allée le voir et qu'elle annonce sa mort à la famille qui était restée à Vienne. Bon. Mmh. Je passe mon temps à confondre les deux. C'est assez curieux, d'ailleurs. Enfin, en psychanalytique, on pourrait dire ce qu'on veut. Je ne peux pas dissocier ces deux lieux au point que j'inverse très, très souvent. La preuve, je viens de le faire à l'instant, alors que le télégramme est bien clair.
Bon, et pourtant, votre ouvrage est en deux parties. Oui. Une partie, effectivement, sur le monde de Vienne, que vous explorez, faute de documents, à l'aune de toute la grande littérature viennoise, juive en grande partie de l'époque.
Parce que là, je n'ai aucun document. Aucun.
Voilà.
J'ai l'adresse, j'ai photographié, je ne l'ai pas mis dans le livre évidemment, l'entrée, j'ai photographié l'escalier j'ai pas pu accéder à l'appartement, mais je n'ai aucun document. J'ai un monument, mais j'ai pas de document, si je peux dire.
Mais c'est une méthode quand même originale que finalement d'aller lire ces ouvrages, j'allais dire de manière active, en se disant il est possible que ma famille ait été ceci ou cela.
Oui, c'est ça.
Parce que ce que vous cherchez finalement, c'est comment ils vivaient.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'ils pensaient? Et alors, comment vous avez lu ces auteurs viennois très célèbres?
Ben je peux entrer, enfin si vous le souhaitez, je peux entrer un peu en détail, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça prenne tout le temps. Non, effectivement, je n'avais aucun document viennois de ma famille, vraiment aucun. Quelques souvenirs que mon père a raconté à ma mère qui me l'a raconté. Mon père est mort, il avait 41 ans, donc j'étais très jeune. Il ne m'a jamais fait de confidence à moi. Donc, il les a fait à ma mère qui me les a répétés. Donc, vous voyez, la déformation. Bon. Même que mon grand-oncle, donc son oncle, m'a dit des choses à moi, mais très peu. Il a dit à ma mère, il a dit à ses filles qui me l'ont raconté. Donc, j'ai aucun témoignage direct. Donc, sur Vienne, je sais que mon père, tout petit, allait jouer, enfin, tout petit, à 5-6 ans, allait jusqu'au Prater, ce qui est quand même pas... J'ai calculé, il y a 1,5 km, quand même, bon... ou dans des petits jardins à côté, etc. Mais il y a très, très peu de témoignages. Il y a quelques photos, il y a des photos dans un jardin que je n'ai pas pu identifier. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais à partir de là? Je ne vais pas plus loin. Donc je vais invoquer à témoignage des contemporains, plutôt de mes grands-parents que de mes parents, puisque finalement, ce qui m'intéresse, c'est la vie de mes grands-parents, arrière-grands-parents à la rigueur, mais bon, ça devient un peu évanescent. Bon. Mais des gens qui étaient contemporains, effectivement, de Musil,
de Robert Musil, l'homme
de Robert,
sans
qualité. Bien sûr, oui. Mais pas que. Bon, Krauss, je vous dirai comment j'ai découvert, Karl parce Krauss, que je ne le connaissais pas du tout, alors que maintenant, je lui vois un culte presque. Zweig, que je connaissais depuis longtemps, et j'avais déjà lu depuis pas mal de temps, Le Monde Disparu. C'est quoi déjà le titre? Le Monde Disparu. Bon. Je ne me souviens jamais des titres. Bon. J'ai découvert Bror aussi, que je connaissais à peine, et qui est un peu allumé, si je peux dire, mais qui est ex-affect. Alors lui, un type déchiré, quoi. Bon, alors là, c'est un peu mon père, je dirais, celui-là. Enfin, je ne veux pas dire trop sur mon père. Bon. Mais c'est une nature torturée, vraiment. Bon, exilé, réexilé, sachant pas vraiment où il est, en fait, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Joseph Roth. Et là, le plus amusant, c'est qu'effectivement, j'en ai mis 3 lignes, pas plus, parce que je n'avais pas brodé là-dessus. Mon grand-oncle Richard, qui était né en 1902, et Roth, qui est né en 1994, ont été simultanément en Galicie, ou à peu près, disons, à Vienne et en France. Et ça m'avait sidéré. Je me suis dit, ils ont dû se connaître. Ce qui n'est pas sûr du tout, évidemment. Mais ce n'est pas impossible non plus. Vous voyez ? Bon. Donc j'imagine ces rencontres. Alors, quant à Musil, moi, Musil, j'avoue qu'il m'étouffe un peu. Je veux dire, non pas trop, que c'est trop compliqué à lire, puisque étant philosophe, j'ai pas de mal. Mais pour un roman, c'est trop philosophique, et pour de la philosophie, c'est trop roman. Vous voyez, donc, j'accroche mal. Je peux admirer, bon, etc. Bon. Alors que... Roth, je le sens très familier, très très familier, très proche. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais son type sensibilité, alors lui aussi, le fait qu'il est mort jeune et qu'il a disparu à sa façon, bon, comme mes grands-parents. Donc j'assimile un peu tous ces gens-là qui ont pas vécu longtemps. Ou qui ont...
Parce que c'était quel type de famille finalement? Qu'est-ce que vous avez dit sur votre famille? Parce que vous avez une photographie, vous l'avez montrée.
Oui, absolument. J'en ai d'autres, mais j'ai montré que celle-là. C'est des bons bourgeois viennois. Bon. Et alors, haute bourgeoisie, je n'irai pas jusque-là, mais c'est quand même des officiers. Hein. Mon grand-père, en 14 ou en 18, au moment où il a été pris à photo.
Voilà, on les voit en costume.
Il était en costume. Mais même, j'ai repéré le grade, il était capitaine. Bon. Il avait quel âge à l'époque? Il avait 35 ans, chose comme ça, vous voyez. Bon. Son beau-frère, donc qui est nettement plus jeune, était aussi officier. Je n'ai pas réussi à comprendre quel grade. Bon. Donc ces gars-là, alors moi je m'étais d'abord, ils se sont désenjuivés complètement puisqu'ils étaient officiers de l'armée austro-hongroise. Or, pas du tout. À cette époque-là, on admettait des juifs chez les médecins, chez les avocats, et chez les fonctionnaires, y compris militaires. Peut-être parce qu'ils parlaient plusieurs langues, peut-être. Bon. Oui, non, j'oubliais de dire que mon grand-père était ingénieur. Bon. Et ça a aidé d'être ingénieur. Alors dans quelle arme a-t-il été ? aucune idée. Dans le génie, dans l'artillerie, j'ai aucune trace de ça. Bon. Mais mon arrière-grand-père, donc comment ça s'appelle, le beau-père, donc le beau-père de mon grand-père, était lui-même ingénieur du chemin de fer. Et il a travaillé et en Tchécoslovaquie, enfin ce qu'on appelle en Tchécoslovaquie, et en Galicie. En Galicie, je dis des bêtises. Bon, enfin, je ne sais plus. Bon. Comme ingénieur des chemins de fer. Et mon grand-père, lui, dirigeait des usines. En fait, le peu que j'en sache, je n'ai pas de trace écrite de tout ça. Mm-hmm. Donc c'était une bourgeoisie plutôt aisée. Le 66 Lichtenstrasse, je peux vous dire, c'est luxueux. Hein. Ce n'est pas un petit immeuble pourri. Bon, c'est une belle avenue, etc. Bon. Et ils allaient à l'opéra fréquemment, et ils voyageaient par-ci, par-là, et ils allaient à Milan, en famille, et à Rome, enfin bon.
Est-ce qu'on peut dire que c'était des juifs assimilés?
Ben, d'abord, j'aime pas le terme assimilé, parce que ça veut dire qu'ils sont plutôt juifs, s'ils sont vraiment assimilés complètement. Bon. Mais je dirais athées et plutôt européen cosmopolite.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on dirait que Zweig est assimilé? Sûrement pas.
Oui.
Parce qu'il garde son judaïsme.
Oui.
Bon. Tout en étant beaucoup plus que ça. Oui. Alors, vous me direz un tas de gens, parce que le juif, sa caractéristique, c'est être cosmopolite.
Oui, mais alors revenons.
C'est pas mes amis, ceux-là.
Revenons peut-être sur ça, parce que effectivement, c'est des figures quand même un peu cosmopolites, comme vous le dites, mais. Comment ressentent-ils l'ascension du nazisme dans le monde viennois?
Qui peut-être... Ma famille?
Oui.
Ben, le peu de traces que j'en ai, c'est-à-dire d'écrits de mon père qui l'a ensuite transmis, ou d'écrits de ma grand-mère, ou de l'oncle surtout, de mon grand-oncle Richard. Alors lui en a parlé, a écrit, il m'en a même parlé à moi. Bon. Et ben, pour eux, c'était vraiment l'abomination, effectivement, mais dès le début. Bon. Sauf que, à nous, on sera peut-être protégés. Parce qu'on est plus pratiquant. C'est-à-dire que c'est quand même. Enfin, ça, c'est quelque chose que je connais par cœur, c'est bien l'ascension des lois de plus en plus répressives, où de plus en plus, il ne fallait pas beaucoup pour être juif. Hein. Bon.
Oui.
Mais eux se sentaient un peu à l'abri. Et surtout, en Autriche, ils étaient encore relativement à l'abri. Et en Pologne, encore plus à l'abri. Il était évident que les Polonais ne sympathisaient pas avec le régime nazi, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Et même pendant la guerre, bon. Ils ont été complices, ils ont été abominables, ils ont été tout ce qu'on veut. N'empêche qu'on a quand même massacré 3 ou 4 millions de Polonais, en plus des 3 millions de Juifs. Bon, enfin, c'est pas pour balancer les chiffres que je dis ça, mais enfin, les Polonais ont quand même été, à mes yeux, plus victimes que complices. Alors je dis pas qu'ils n'ont pas été du tout complices, mais bon. Enfin, c'est hors sujet par rapport à mon livre.
Ça rentre dans une autre, bon, dans une autre polémique. Oui.
C'est pas ça que j'ai traité, de toute façon.
Mmh. Hein, bon.
Si, j'ai traité en long et en large leur disparition à Lviv, en prenant plein de cas de figure. Et je me suis dit, on va supposer que vous me demandez, pourquoi j'ai traité ces différentes sortes de morts possibles.
Oui, alors peut-être avant d'arriver à ces différentes sortes de morts possibles, comme vous le dites, c'est peut-être aussi presque, comment qualifier votre ouvrage, sinon peut-être d'un livre un peu expérimental, finalement, où les situations s'enchaînent. Alors,
oui, je suis d'accord.
L'autre côté, on est en Galicie, à Lviv, qui va s'appeler aussi Lemberg, qui est une ville qui a fait couler de l'encre quand même ces temps derniers,
oui.
Voilà,
mais pas beaucoup,
On a reçu l'auteur de Retour à Lemberg il n'y a pas longtemps.
Mmh.
Comment vous caractériseriez cette ville, Lemberg ou Lviv, par rapport à Vienne?
Ben, la réponse est, j'ai pas.
C'est la réponse est dans.
La réponse a été donnée par Joseph Roth.
Oui.
Vraiment. Si je l'ai mis quelque part, je ne sais plus à quel endroit. C'est pas un exergue.
Il dit un exergue, oui. Entre Vienne et Lemberg aujourd'hui encore, comme toujours, c'est un échange radio de culture.
Et voilà. Voilà. Je peux pas dire mieux que lui. Hein. C'est vraiment un mouvement constant. C'est-à-dire, ces gens-là étaient vraiment des Galiciens. Et en même temps, vu leur statut social. Ce n'était pas des gens des ch'tételés, ceux-là, du tout.
Voilà, hein. C'était pas des gens des petits villages, oui, bien sûr.
Mais du tout. Je dis ça parce que j'ai un ami qui est en train d'écrire un bouquin sur son père, qui était né qui était galicien aussi, et qui parlait yiddish, et lui-même en a appris un peu. Moi, c'est lettre morte. Hein. En plus, l'allemand, je n'ai jamais appris parce que mon père avait jeté un tel interdit, que stupidement, non, pas stupidement, que je n'ai pas transgressé. Bon, je lis l'anglais, je parle l'anglais, l'espagnol, le français un petit peu quand même. Bon. Et l'allemand, c'est interdit, alors que je trouve que c'est une très belle langue en plus. Vous voyez, alors quand on y dit, rien du tout. Mais ils naviguaient là-dedans, effectivement. Et ils étaient polyglottes. Alors, est-ce que dans ma famille, on parlait yiddish ? Aucune idée. Aucune idée. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Mon père, sûrement pas. Mon grand-père et ma grand-mère, probablement pas. Et mon arrière-grand-père, enfin, mon arrière-grand-père côté ma grand-mère, non, parce que l'autre côté, je ne peux même pas en parler parce que je ne sais absolument rien d'eux. Mais rien.
Alors, peut-être il faudrait quand même expliquer là aussi que vous suivez la même méthode pour Vienne, pour la Galicie, que celle que vous avez suivie pour Vienne, en lisant un certain nombre d'auteurs pour vous inspirer de leur vie et savoir aussi.
Oui, sauf que là, c'est plutôt des historiens que des romanciers. Enfin, si, il y a un peu Roth, effectivement, qui en a un peu parlé. Mais,
il y a Singer, Isaac Bachvissinger.
Bassinger, que j'ai très peu cité, d'ailleurs. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai lu, mais je ne sais pas. Bon, c'est comme ça. Comme ça.
Qu'est-ce que vous aviez comme ressources pour la Galicie encore ?
Pas grand-chose. Des historiens, encore une fois. Ou des témoignages. Mmh. Ou des témoignages. Alors si, il y a des bouquins, mais je n'ai même pas mémorisé, parce que c'est des bouquins très récents, qui datent de moins de 20 ans, Omer Barthaud, ou Maché, ou... comment il s'appelle ? J'ai pas mémoire des noms, c'est terrible. Hein, bon. Mais il y a plusieurs auteurs anglo-saxons, enfin juifs, américains, ou anglais, ou allemands, ou polonais, mais polonais je lis pas, qui ont pas mal écrit, effectivement, sur Lwów, Lwów Lemberg, entre 1880 et 1940-45. Barthov, par exemple, non, c'est pas Barthov, c'est un autre, c'est un Israélien dont j'oublie le nom. Il a écrit en détail toutes les actions à Lwów et autour pendant toute la durée. J'en ai fait un tout petit résumé parce que ça en fait 300 pages. Bon. Alors c'est ça mes sources, mais c'est des sources très récentes. Hein. Parce que Lwów n'a pas intéressé grand monde en réalité. Alors que sur Vienne, c'est surabondant. C'est surabondant.
Oui. Et donc là, comment vous situez votre famille dans le monde de Lwów ? Comment vous le situez ? Comment vous les situez ? Est-ce que c'est le même type de catégorie sociale ? Est-ce qu'ils sont aussi cosmopolites ?
C'est les mêmes.
C'est les mêmes.
Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Parce que mon grand-père paternel, donc Juffé, qui était ingénieur lui-même, aîné et officier de l'armée, etc. Bon, lui est né à Stanislaw, qui maintenant s'appelle Ivano-Frankovsk ou quelque chose comme ça, qui est à 50 km de Lwów. Ils ont vécu aussi à Tarnopol, qui est à aussi 50-60 km. Bon. Donc c'était des lieux précieux pour eux. Bon. Et du côté de mon grand-père paternel, c'est toute la famille qui vient de là, parce qu'il avait des frères et sœurs qui étaient nés là aussi, et des grands-parents et des parents qui étaient nés là aussi, mais j'en savais plus sur eux. Hein. Bon. Alors que les autres, c'était Bohème-Moravie, du côté de ma grand-mère. Bon. Et ils circulaient entre les deux, effectivement.
Alors, donc, vous...
Mais je ne peux pas en dire plus.
Oui, bien sûr. Et donc, vous cheminez à travers ces fameuses axiomes, donc des actes antisémites,
de
meurtres, de pogroms, etc. Et à chaque fois, étape par étape, vous vous demandez qu'est-ce qu'il advient de votre famille.
Oui. Et vous voyez, au début, c'était quelles sont les possibilités. Je les ai même numérotées. Puis j'ai renoncé parce que je me suis dit, ça fait vraiment un peu liste de courses. Enfin, ça fait liste.
Ah, ça fait expérience scientifique.
Oui, c'est ça. Ça fait nazi aussi, du coup. C'est la limite.
Oui.
Alors, je ne suis pas de ce côté-là. Quand même. Bon. Donc, j'ai mis, bon, peut-être que ceci, cela, j'ai cessé de numéroter. En plus, j'aurais pu numéroter jusqu'à 10 000 parce que j'aurais pu faire des variantes. Bon. Mais ce que je cherchais à montrer, c'est que finalement, je ne saurais jamais. Par contre, il y a des parcours possibles, effectivement. Donc c'est presque la physique quantique, quoi, je dirais. Il y a un certain... Je dis physique quantique, maintenant, en en parlant, je n'y ai pas du tout pensé avant. Il y a plusieurs probabilités, plus ou moins élevées. Bon, la plus forte, d'ailleurs, c'est qu'ils soient morts dès les premiers jours, c'est-à-dire fin juin, début juillet, parce qu'ils ont tué plutôt des intellectuels à ce moment-là, qui pouvaient attraper. Alors, Sidi, ma grand-mère était médecin, donc, enfin, était biologiste de laboratoire, donc peut-être qu'il l'aurait épargné. Bon, après, on peut spéculer à l'infini. Mon grand-père était plutôt âgé, donc lui, il avait 10 ans de moins quand même. Bon, peut-être qu'on l'a liquidé d'emblée comme étant un vieillard, mais peut-être que non, parce qu'il était ingénieur. Il parlait parfaitement allemand. Bon, j'en suis réduit vraiment aux hypothèses. Bon. Mais c'est une espèce de parcours que je fais. Parce que ça me fait connaître tout cet épisode, si je peux dire. Enfin, épisode qui a duré 2 ans et demi, quand même. Bon. Et du coup, ce n'est pas que leur vie à eux. C'est la vie des Juifs de Lvov que je suis de près. Je n'ai pas écrit ça, j'aurais dû le faire d'ailleurs, parce que c'est un peu ça mon idée. Ce n'est pas que ma famille.
Bien sûr.
C'est toutes ces familles qui disparaissent, à un moment ou à un autre. Puis après coup aussi, ça c'est vraiment freudien, si je peux dire, c'est dans l'après coup que je me suis rendu compte que chaque fois j'essaie de leur donner un sursis. Là, ils ont pu mourir. Ah non, mais peut-être pas. Donc, mort en sursis, vous voyez ?
Voilà.
Donc, jusqu'à la fin, où je suis sûr qu'à la dernière étape, là, ils sont morts pour de bon.
Oui, parce qu'on a épuisé toutes les probabilités.
Parce qu'il n'y a plus rien. Et qu'il n'y a pas de nouvelles, après. Il n'y a pas de nouvelles. Alors qu'ils auraient pu en donner à leur ami Ashkenaz, qui habitait Bruxelles depuis longtemps et qui n'a pas déménagé. Ma grand-mère aurait pu écrire « Mon cher Stéphane, je te signale que je suis en vie. » Ou mon oncle Richard, qui était à Amsterdam, ou je ne sais plus où à l'époque. Enfin bon, s'ils étaient restés en vie, ils pouvaient contacter ou cet ami, le pianiste, ou mon grand-oncle. Donc, il y a certains qui sont morts à ce moment-là. Bon. Mais à ce moment-là, ouais, enfin, dans cet intervalle-là, on va dire plutôt.
Ouais.
Là, bon. Et en même temps, encore après coup, je me suis dit, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont pu vivre comme horreur d'être tout le temps un peu survivants, sachant que le prochain coup, ils allaient y passer. Mais je ne sais pas s'ils ont raisonné comme ça. Peut-être que chaque fois, c'était ouf, on échappe. Je ne sais pas du tout.
Oui, et c'est peut-être vous qui raisonnez comme ça, oui. Parce qu'effectivement, vous êtes d'hypothèse en hypothèse à partir de situations données où vous faites jouer telle ou telle caractéristique professionnelle,
c'est
d'âge,
ça,
de
c'est
santé,
ça, c'est
qui font qu'éventuellement, ils pourraient survivre. Mais alors, finalement, je reviens à la question de... Vous dites à un moment donné que comment rendre familier ce monde qui est très loin du vôtre. Vous avez découvert la question de la Shoah de manière spécifique. Peut-être que vous pourriez nous en dire deux mots.
Oui, tout à fait. Oui, j'y tiens.
Et donc... Quel sens ça a finalement d'arriver à retrouver toutes ces hypothèses de disparition possibles, ou de retracer ces cheminements et de retracer ces parcours ?
Ben, je les fais revivre en même temps, en faisant ça. Je les fais revivre d'une certaine façon. Parce que tant qu'ils sont pas. Ils sont à tel endroit, ils sont encore en vie, même s'ils souffrent, même si c'est compliqué, etc. Bon. Et puis, j'ai quand même parlé de ce qui se passe avant. Alors, oui, Shoah. Bon. Alors, le mot Shoah, je l'ai connu bien plus tard. Bon, c'était
vous parlez l'extermination. D'un
album, Il y a ce fameux livre, je sais pas. J'avais mis en bas de page la cinquantaine d'endroits où on peut le trouver dans le monde. Je me suis dit, bon, peut-être pas tout à fait dans le sujet. Bon, ça s'appelle Nous n'avons pas oublié, qui a été édité en 59 et que mon père avait et qui était sous mes yeux.
Qu'il a mis sous vos yeux, si j'ai bien compris.
Il l'a mis, il ne m'a pas dit, tiens, je mets sous tes yeux. Mais il était sous mes yeux, forcément. Puisque moi, il savait très bien que j'allais fouiller dans sa bibliothèque. Et puis, c'était un gros album, on ne pouvait pas le louper. Quoi. Bon. Et c'est vrai que c'était saisissant pour moi. Mais d'un côté, ça ne pouvait pas m'être étranger, puisque je savais, même à 14-15 ans, que ma famille avait disparu. Donc mon grand-père, ma grand-mère et ma tante. Bon. Et en même temps, c'est des mots pour moi, tout ça, parce que je ne les ai jamais vus. J'ai des tantes du côté de mes parents maternels que j'ai connues, que j'ai vécues, je peux dire, tante machine, tante truc, bon. Grand-père machin, là, c'est des mots.
Oui, d'autres membres de votre famille dont vous connaissez les territoires,
bien
les
sûr,
rues,
j'ai vécu,
etc.
J'ai vécu.
Et vous avez vécu.
J'ai passé mon enfance chez mes grands-parents, bon. Pour des raisons que
oui.
J'ai pas envie de développer. Bon.
Mais que vous expliquez dans le livre.
Oui, un petit peu. Un petit peu. Bon. Mais je ne dis pas le détail du pourquoi. Mais bon. Donc, c'est un milieu très familier pour moi. Bon. Et en même temps, comment dire, affectivement et intellectuellement, je ne dis pas je me sens pleinement juif, parce que ça serait faux. Mais une partie de moi se réclame de ce monde-là, effectivement. Sinon, je n'aurais même pas écrit ce livre-là, d'ailleurs. Parce que je ne dis pas qu'il me hantait, mais enfin, c'est quand même pas par hasard si j'écris sur Freud, puis sur Spinoza, puis sur Freud et Spinoza. Et que je reviens à ces gens-là, bon, qui sont quand même juifs, hein, que je sache, même s'ils le rejettent, enfin, les gars.
Vous ne savez pas s'il le rejette.
Il s'en réclame. Non, il ne le rejette pas, parce que ce que disent les deux, ça c'est dans mon livre La correspondance Freud-Spinoza, où je montre bien que tous les deux disent que finalement, la religion hébraïque, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Faute de raison, faute d'être un savant, etc., ou d'un philosophe, ça peut quand même servir. C'est la moins mauvaise de toutes. Je caricature énormément, mais en gros, ça revient à ça. Puis quand Freud écrit Moïse, c'est pas par hasard.
Bon. Oui.
Et bon, bref. Alors, je me suis un peu. Oui. Alors, Shoah. Donc, à 15 ans, je vois ces images que je trouve atroces. Mais j'imagine pas à ce moment-là que ça sera porté à ma propre famille. Il m'a fallu 20 ans de plus pour me dire, tiens, mais c'est les miens qui ont disparu. Parce que ces miens, je ne les ai jamais connus. Ils n'ont pas disparu pour moi. Ils ont disparu pour mon père. Alors c'est là que je me dis, on va ouvrir une petite parenthèse freudienne. J'aime Freud, mais je ne suis pas freudien. Je ne suis pas adepte, disons, du tout, de la psychanalyse. Bon. Mais là, il y a quand même la transmission inconsciente. Parce que, bon, pour mon père, tout ça a été vivant. Hein. Il les a vraiment perdus. Ses parents, sa sœur, il les a perdus pour de bon. Bon. Et quelque chose s'est transmis de lui à moi là-dessus, sans qu'il m'en parle. Bon, donc, au niveau des émotions, des affects. Bon, et en même temps, je ne veux pas faire de confidence sur ma vie actuelle ou depuis 20 ou 30 ans, ça me marque. Et ça me marque de manière douloureuse, je dirais. Ce n'est pas des anecdotes, c'est pas un récit, la Shoah, pour moi, vous voyez. Bon, bien sûr, c'est aussi un récit, et même un tas de récits. Bon, mais c'est... Je me dis, j'ai hérité de ça. Et une partie de mes mal-être ou de mes difficultés à vivre qui sont réelles viennent de ça, pour moi. C'est évident.
Est-ce que vous diriez, avec Maurice Halvax, que finalement, l'histoire s'est transformée en mémoire
pour
vous ?
Tout à fait. Tout à fait, absolument.
Bon. Et que finalement, cet ouvrage... Et
j'adhère totalement à ce que dit Halvax. C'est très bien vu, d'autre part, vraiment. Oui. Tout à fait.
Est-ce que finalement, cette histoire que vous retracez à travers plusieurs hypothèses, ce n'est pas finalement la constitution d'une mémoire ?
Absolument. Mais mot à mot, je souscris entièrement. Alors du coup, ce n'est pas anecdotique, mais j'avais commencé à écrire un livre avec un ami qui est mort entre-temps, qu'on a intitulé « Temps, virgule, histoire-mémoire », mais que je suis en train d'écrire tout seul, mais avec pas mal de peine, parce que quand on a démarré à deux, continuer seul, c'est pas très rigolo. Bon. Et on essaie de montrer, à rebours des historiens, d'ailleurs, nous disons « la mémoire n'est pas constitutive de l'histoire », c'est le contraire. L'histoire est quelque chose qui aide à constituer la mémoire, étant donné que la mémoire, je résume très fortement, bon. La mémoire, c'est un processus de remémoration, donc de remise en vie de quelque chose. Vous voyez, bon. Donc l'histoire est le support de ça. Donc je n'ai pas du tout une approche historienne en disant ça, bien entendu.
Oui, mais en même temps...
Halvax avait cette approche. Hein.
Oui, voilà. Mais en même temps, vous allez quand même sur le territoire de l'historien, parce que vous mobilisez des documents, vous mobilisez et vous exploitez à fond un petit télégramme tout à fait anecdotique.
C'est ça.
Bon. Donc, votre frontière entre le témoin et l'historien est quand même ténue.
Oui, d'accord. Mais en même temps, si vous voulez, je m'en fous, parce que je ne fais pas épistémologie là-dedans, je ne suis pas non plus philosophe, c'est un récit. Quoi. Bon, enfin, c'est un ensemble de récits, peut-être que d'autres pourront me dire « j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Bon, je ne suis pas sur un terrain disciplinaire. Et pour moi, ce n'est pas une œuvre... Alors que même quand j'écris la correspondance entre Freud et Spinoza, je dis ça pour faire un peu de pub en même temps.
Vous pouvez dire l'éditeur, c'est pour faire de la pub. Hein.
Oui, oui, ben c'est Gallimard et c'est paru en 2016.
Bon, voilà.
Et ça a bien marché, je veux dire.
Voilà,
si ça peut continuer à marcher, je serai encore plus content. Bon. Mais je suis très fier de ce livre, d'ailleurs, parce que vraiment, je crois que je les ai bien mis en relation l'un et l'autre. Bon. Et là, c'est un ouvrage plus savant, dans la mesure où je fais extrêmement attention à ne pas prêter à l'un ce qui n'est pas de lui ou à l'autre. Enfin, je crois que j'ai fait un vrai dialogue. D'ailleurs, ça a été reconnu comme de qualité, effectivement, par pas mal de lecteurs aguerris, si je peux dire. Bon. Et, tandis que dans celui-ci, c'est des éclats aussi. Le livre lui-même, c'est une série d'éclats. Bon. Et je ne me souviens pas de leur cohérence, vous voyez, ou de leur empilage, bon, ou de l'importance. Par exemple, effectivement, il y a deux pages ou trois pages d'un récit d'Albert Londres, on pourrait dire, oh là là, mais c'est disproportionné avec le reste, ça m'est égal.
Oui, oui, ben ce récit d'Albert Londres est fascinant. Mais alors, On pourrait peut-être dire deux mots quand même des derniers chapitres,
oui,
où vous mettez en regard la situation de votre famille avec la situation actuelle dans ces pays, et ce qui s'y passe et le regard que vous avez dessus. Oui.
J'ai beaucoup hésité parce qu'on m'était dit c'est hors de l'histoire de ma famille, mais en même temps non, ça en fait toujours partie, parce que si elles ont disparu, il y a encore des juifs dans ces pays-là, il y a de moins en moins, ceci dit. Et l'anti-judaïsme ou l'anti-sionisme est virulent. Bon. Et, sauf que... Alors, en fait, c'est parti. Au début, ça serait indiscret par rapport à lui. Bon. Enfin, disons que mon ami Grybinski, celui qui a édité, en tant que directeur de collection, la correspondance, là, bon, il dit, tiens, tu as remarqué la montée de l'antisémitisme en Hongrie, par exemple. Il dit, si on pouvait arriver à comprendre... un peu mieux d'où ça vient, etc. Bon. Et j'ai dit, oui, tu as raison, je vais m'attaquer à ce problème. Mais au bout d'un certain temps, c'est plus ce problème qui m'intéressait. C'est effectivement, d'un côté, je pensais sur la famille, et en même temps, je pensais à ça. Donc j'ai joint les deux. Et du coup, cette partie-là, j'aurais pu la soustraire à ce livre, finalement, parce qu'elle ne fait pas partie sur la famille. Mais en même temps, c'est aussi... l'histoire en famille, c'est aussi un témoignage d'antisémitisme. Alors pourquoi pas parler d'antisémitisme au présent ?
Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe en Pologne ? Parce que c'est contrasté quand même ce qui se passe en Pologne.
Oui, je ne suis pas assez savant pour en parler. Je suis pas assez.
Vous en avez parlé ?
Oui, j'en parle, bien sûr, bien sûr. Bon. Mais je vois les manifestations. J'ai quand même été en Pologne, mais il y a très longtemps. Il y a des gens qui me racontent ce qui se passe en Pologne. Bon. Et c'est quand même, la constitution est quasiment catholique. Hein, bon, il y a très peu de juifs en Pologne. Bon, donc c'est des témoignages indirects que j'ai effectivement. Hein, mais d'autant plus que la partie où vivaient mes grands-parents, maintenant, elle est devenue l'Ukraine.
Oui, voilà. Alors
l'Ukraine, elle, qui est très antisémite.
Voilà. Enfin, et bon, l'Ukraine,
l'Ukraine, c'est patent, j'irais. Oui,
c'est illustré.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et du côté de l'Autriche, du côté de Vienne. Et quel est le regard que vous posez sur...
Bon, je dirais, je n'adhère pas à Ankel et des gens comme ça, ça y est, j'oublie son nom, Elden Platz, c'est de qui déjà ? Comment il s'appelle ? Je perds la mémoire des noms, c'est terrible.
Bon,
c'est pas grave, bon, on voit de qui il s'agit. Bon, je ne peux pas entièrement me fier à ça, mais... Le témoignage de mon oncle, pour moi, a une très grande valeur, puisqu'en 48 ou 50, je ne sais plus quoi, il dit « Vienne est une ville morte ». Alors, elle n'est peut-être pas morte à certains égards, bien sûr. Mais pour les Juifs, c'est devenu une ville morte. Parce qu'ils ont, il dit « Je connaissais des centaines de gens, j'en connais plus du tout ». Bon. Donc, ma Vienne à moi, c'est celle-là. Et quand je suis allé à Vienne, j'ai regardé ça, effectivement, comme un beau décor de théâtre. J'ai visité l'appartement de Freud. Je suis allé au musée, je ne sais plus lequel, au moins trois fois, voir les tableaux de Bruegel, parce que j'adore Bruegel, etc. Mais pour moi, Vienne, c'est un musée. Et rien d'autre. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, ce n'est pas ça. Mais ma Vienne à moi, c'est cette ville passée.
Bien sûr. Petit peu comme Robert Baubert, qui était venu aussi nous parler de Vienne avant la nuit, oui. À partir de son film. Mm-hmm. Bon, écoutez, merci beaucoup Michel Dufay pour être venu nous présenter ces éclats d'un monde disparu, une famille juive entre Vienne et la Galicie aux éditions de l'Élan. Bonsoir.
Merci.
Livre au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Yankel Fijalkov sur GDIC FM.